J'entends qu'au téléphone, notre invitée Anne-Catherine Laurent nous a rejoint. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour tout le monde.
Alors nous allons passer à notre sujet principal, l'échange va principalement être animé par mon collègue Étienne Gonu. Donc c'est le projet de directive droit d'auteur. Donc nous avons avec nous en studio donc Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour.
Au téléphone donc nous avons Anne-Catherine Laurent, conseillère politique pour le groupe des Verts européens. Donc tiens, je te passe la parole pour ce sujet, donc le projet de directive droit d'auteur.
Merci Fred. Si vous êtes amateur régulier et auditeur auditrice régulier de Libre à vous, vous saurez que nous avons déjà plusieurs fois abordé cette question. Je vous propose déjà peut-être un petit récapitulatif des épisodes précédents, on va dire de la directive. Alors déjà, notre émission du 5 juin, alors tous les liens seront sur la page dédiée, hein, sur le site, donc il pourra vous ramener aux transcriptions notamment et aux détails de ces émissions. Donc effectivement, le 5 juin 2018, Anne-Catherine avait déjà participé à cette émission, aux côtés de Marc Reyes, qui est journaliste et rédacteur en chef du journal d'investigation en ligne Next Impact. Et avec lui, nous étions revenus sur la genèse de cette directive et surtout de son article 13, dont l'objet serait de rendre responsables les plateformes de partage de contenu des contenus qu'elles hébergent. Et elles devraient donc s'assurer qu'aucun contenu non autorisé par les ayants droit ne soit mis en ligne. Donc, en gros, ça remet en cause un principe structurant d'Internet qui est un intermédiaire technique n'a pas à surveiller les contenus que ses utilisateurs et utilisatrices mettent en ligne. Dit à l'inverse, seul un éditeur, donc qui par essence a vocation à connaître les contenus publiés, est directement responsable de ces contenus. Alors clairement, la cible du texte, c'est YouTube, c'est Facebook, mais même si on peut débattre de leur modèle, de leur manière de fonctionner, la loi s'applique à tous, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, et c'est un peu finalement l'objet qui anime notre combat contre ce texte très dangereux. Alors, le 3 juillet, dans notre émission du 3 juillet, aux côtés de Pierre Bessac, hein, qui est un militant de longue date de Liberté Informatique et qui est notamment cofondateur de Gandhi, un des principaux hébergeurs de noms de domaines français, on parle de registrar, avec lui, nous avions justement discuté plus en détail des dangers des systèmes de filtrage automatisés que pousserait et forcerait finalement à adopter l'article 13, enfin, les plateformes à adopter en vertu de l'article 13. Et de leur impact sur les libertés informatiques, de leur impact sur la manière dont fonctionnent les plateformes de partage. Et nous avions notamment parlé plus spécifiquement de l'impact que ces systèmes pourraient avoir sur les plateformes de développement et de partage de logiciels libres et pourquoi nous nous battions pour qu'une exception soit prévue et intégrée au texte. On reviendra d'ailleurs un peu plus en détail plus tard sur ce point. Sachez que voilà, normalement l'exception est plus ou moins acquise, donc au moins déjà une petite victoire sur ce sujet. Enfin, le 2 octobre, alors là c'était plus court, mais j'avais partagé avec vous une triste nouvelle, on va dire, celle que du vote du 12 septembre par le Parlement européen, vote par lequel ce Parlement donnait mandat au rapporteur Axel Voss pour porter le projet de directive, donc dans une version particulièrement inquiétante en ce qui concerne l'article 13, donc pour porter un projet de directive au niveau de ce qu'on appelle les trilogues. Pour rappel, le trilogue, en gros, c'est une négociation entre les représentants des trois principales institutions européennes, donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est la représentation directe des États membres, des gouvernements, si vous voulez. Et derrière des portes closes, ils discutent ensemble pour obtenir un texte, qu'on va dire un texte de compromis, qui au final sera voté par les parlementaires européens. Donc nous, quand on avait préparé cette émission, le but, c'était il devait y avoir une dernière discussion le 21 janvier. Et nous, on préparait cette émission avec le but, finalement, de détailler ce qui allait ressortir de cette dernière négociation. Mais, surprise, le 18 janvier, il s'est passé quelque chose qui a tout remis en cause. Un mandat a été rejeté. Et là, j'ai envie de passer peut-être la parole à Anne-Catherine, parce que puisque tu es directement, on va dire, dans les coulisses des institutions européennes, enfin, tu as un regard privilégié peut-être sur ces questions. Peut-être que tu peux nous dire plus un peu sur ce qui s'est passé ce 18 janvier et tout le contexte qu'il y a autour.
Oui, effectivement. Alors le 18 janvier, ce qui s'est passé, c'est que la présidence roumaine qui venait juste de prendre son mandat à la tête du Conseil, à la présidence du Conseil, à partir du 1er janvier, n'a pas réussi à dégager une majorité sur l'article 13, exactement sur l'article 13. En fait, une minorité de blocage, parce que toutes les décisions sont prises à une majorité simple. Il suffit qu'il y ait une minorité de blocage pour qu'il n'y ait aucun mandat, aucun accord au sein du Conseil. La Roumanie n'a pas réussi à convaincre notamment l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Suède, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Slovénie, la Pologne, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, j'en ai déjà parlé. Donc tous ces pays, en fait, étaient contre ce que la présidence roumaine a mis sur la table. En gros, ce que la présidence roumaine a mis sur la table, c'était le texte qui était déjà là en décembre, à l'issue du cinquième trilogue qui a eu lieu le 14 décembre à Strasbourg.
D'accord, donc si je comprends bien, la Roumanie devait, comme ce que je disais par rapport à Axel Voss, devait obtenir suffisamment de soutien pour son texte, et tous les pays que tu nous as cités n'ont pas donné ce soutien, et ça faisait une masse suffisante pour pas que le texte soit adopté.
C'est ça, ça a continué une minorité de blocage pour qu'il n'y ait pas de texte à mettre sur la table par la présidence du Conseil.
D'accord. Donc ils préparent.
Et la France était du côté de la Roumanie, c'est-à-dire ils voulaient continuer les négociations sur le texte existant. Mais on est assez content en fait que l'Allemagne ait permis ce blocage, puisque vous le savez, en Allemagne, l'exception pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises et les PME, exception à l'application de l'article 13, est quelque chose de très important pour le gouvernement allemand. Ça a été à l'issue de discussions, de tractations impliquant les partis majoritaires du gouvernement, dont la CDU, qui ont vraiment insisté pour avoir cette exception. Donc, la France, eux, ne partageait pas ce souci, ce qui a fait que, eh bien, il n'y a pas pu y avoir d'accord. Donc, évidemment, on présente les choses comme une opposition France-Allemagne, ce qui est très simpliste, parce que c'est pas ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres pays qui partagent les vues de l'Allemagne. Mais c'est un peu comme ça qu'ont été présentées les choses de manière un petit peu facile, notamment au sein de la commission jury la semaine dernière. Mais voilà, donc on en est là pour l'instant, et le trilogue qui devait avoir lieu, le sixième trilogue qui devait avoir lieu le 21 janvier a été annulé plus ou moins à la dernière minute, et nous n'avons pas de date de remplacement. Donc on ne sait pas, on entend parler d'une prochaine réunion dite COREPER, c'est-à-dire des représentants des gouvernements précisément sur ces questions de propriété intellectuelle et de copyright. Peut-être le 6 février.
D'accord.
Et si ça a lieu le 6 février, on aurait un trilogue très rapidement après, avant la prochaine session plénière du Parlement qui a lieu la semaine du 11 février. Tout au conditionnel, on n'a absolument aucune confirmation, ce qui rend tout à fait possible une non-adoption de la directive avant la fin, avant les élections du Parlement.
Ouais, c'est tout l'enjeu. Mais je pense qu'on reviendra plus tard sur comment se mobiliser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, forcément, ça s'adaptera au contexte. Et ce que je trouve peut-être intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'était présenté, alors on peut imaginer que c'est important, l'opposition France-Allemagne, mais ce qu'on avait comme aussi l'impression, c'est qu'avant quand même ce vote du 18 janvier, tout n'allait pas forcément bien. Au contraire, on voyait déjà que peut-être que la directive, notamment autour de l'article 13, ça commençait à prendre l'eau. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà justement des tensions qui existaient, des difficultés à aboutir à un texte? De mémoire, justement, là on parle de trilogue, donc ces négociations, il y en avait déjà eu 5, il y a eu des dates qui ont été rajoutées parce qu'il me semble qu'ils n'arrivaient pas justement à aboutir à des négociations. Je crois qu'il y a eu finalement je crois que c'est le cinéma hollywoodien qui est revenu en arrière en disant finalement ce texte est dangereux, on n'en veut pas non plus. Peux-tu peut-être nous donner ton sentiment par rapport à ce qu'on a pu percevoir de l'extérieur comme vraiment une situation de tension et de difficulté à aboutir à une négociation?
Effectivement, de toute façon, ce texte donne lieu à des tensions parmi tous les acteurs concernés, les acteurs du secteur culturel, d'Internet, et évidemment au niveau gouvernemental. C'est très tendu depuis le départ. Pour la Commission, ils marchent aussi sur des œufs. Leur service juridique a été réticent envers certaines choses. On a entendu dire qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'a proposé la commission sur l'article 11, par exemple. Donc, c'est très, très délicat depuis le départ. La campagne
juste sur l'article 11, pour les personnes, je crois que nous, on s'est focalisé sur l'article 13. On va plutôt essayer de se focaliser sur l'article 13. Et l'article 11, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, concerne voilà, les publications de presse. Notamment, ça visait Google News, hein, de l'autre pan de monétisation de Google. Et voilà, de, finalement, de donner des droits particuliers au fait de référencer des liens en ligne.
Oui, ce qu'on appelle la link tax aussi, oui, oui. D'accord, mais je ne vais pas m'étendre sur l'article 11, mais c'est difficile de exactement séparer parce que toute la dynamique et tout est assez imbriqué. Mais c'est juste pour dire que la commission marche sur des œufs depuis le départ aussi. La lettre dont tu parlais tout à l'heure, c'est cette lettre qui a été envoyée en décembre par Motion Pictures of America et aussi d'autres lobbies du secteur audiovisuel. Qui se disent que, bah, écoutez, finalement, ils se rendent compte que à force d'ajouter plein de conditions sur les filtres, d'ajouter plein de considérants, il y a des articles dans la directive, mais il y a aussi ce qu'on appelle des considérants, c'est-à-dire des paragraphes avant les articles qui permettent d'éclairer le juge et le législateur national quand il s'agira de transposer la directive en droit national, d'éclairer sur l'application des articles. Donc c'est très important parce que ça donne beaucoup de contexte, de justification. Et rien qu'autour de l'article 13, il y a 10 considérants. C'est énorme, énorme, pour justement essayer de justifier ce contournement de la directive e-commerce de 2000, qui était vraiment la pierre angulaire de cadre juridique d'Internet en Europe depuis 2000. Que contourne ce nouvel article 13, puisque cet article 13 crée des règles spécifiques ad hoc pour les contenus de droits d'auteur, en disant que l'exception pour non-responsabilité dont peuvent bénéficier les plateformes ne s'appliquerait pas concernant ce genre de contenu. Donc il y a 10 considérants pour expliquer comment finalement c'est possible, etc. Donc ça prouve bien aussi la délicatesse du sujet et la difficulté du législateur de justifier l'article 13.
Oui, on voit, mais c'est ce qu'on défend aussi. Alors, ce qu'on défend, c'est que finalement, effectivement, le texte, dès le départ, est très mal rédigé. Alors, le nombre de considérants étant un fort indice, le nombre d'exceptions étant un autre fort indice. Une bonne loi n'a pas besoin d'autant d'exceptions. Je vais juste préciser peut-être que la directive e-commerce que tu mentionnais, voilà, précise justement ce dont je parlais au début sur l'équilibre des responsabilités, le fait que si on ne connaît pas les contenus, on n'a pas à aller les vérifier justement pour ne pas en être responsable. Et ça gère tout toutes ces difficultés.
Il y a un principe de non-responsabilité, en fait. Oui. La directive du commerce, c'est un principe de non-responsabilité avec exception, responsabilité dans tel et tel et tel cas. Ici, c'est un principe de responsabilité avec, par exception, des fois, non-responsabilité. Donc là, on inverse complètement le système pour un type particulier de contenu. Donc, juridiquement, c'est très problématique. Je suis juriste de formation et ça pose problème aussi à beaucoup de gens.
Alors, tu mentionnais, et je pense que c'est un point important, l'exception, et c'était vraiment, on sentait le point névralgique, et alors c'est intéressant que ça tourne autour des petites et moyennes entreprises, mais tu étais une exception, effectivement, parmi beaucoup d'autres. Alors, c'est là-dessus que ça a basculé. Alors, on voit que c'est pas l'argument des libertés, forcément, qui a prédominé, mais bon, à partir du moment où la directive s'écroule, surtout son article 13, on est preneur. Alors, j'aimerais peut-être te demander, du point de vue d'une des types de plateformes qui a obtenu une exception, et c'est Wikipédia. Alors on imagine bien l'importance qu'il est de ne pas préserver Wikipédia des tentacules de ce texte. Peut-être peux-tu, Pierre-Yves, nous donner ton regard en tant que président de Wikipédia France sur ce texte et sur l'exception qui a été accordée ou non peut-être à Wikipédia.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau de la communication, la publicité, on prétend que la directive européenne est une loi anti-GAFA, donc anti-plateforme privative des géants du web. Mais c'est qu'en fait, au tout départ, le texte de la Commission visait tout l'Internet, quasiment tout l'Internet, et il a fallu se mobiliser pour obtenir des exemptions petit à petit. La première, à ma connaissance, c'était Wikipédia. Sachant que ça pose des problèmes. Dans le mouvement Wikimedia, il n'y a pas que l'encyclopédie. Donc, après coup, Finalement, elle a été élargie pour prendre en compte un peu tous nos projets à but non lucratif, non commercial, qui visent le savoir, la connaissance et l'éducation au sens large. Mais ça pose un problème de fond. En 2001, quand est créé Wikipédia, peut-être qu'on ne l'aurait pas obtenu, étant petit, voire même avant sa création. On ne peut pas exempter quelque chose qui n'existe pas encore. Donc la directive, il faut bien voir qu'elle va s'appliquer pendant 10-20 ans dans toute l'Union européenne. Et donc c'est un peu dommage d'exclure que des services qui existent déjà sur le web ou qui sont suffisamment forts pour pouvoir faire du plaidoyer à Bruxelles et comprendre un peu toutes les arcanes, et qui sont bien vus aussi par les parlementaires et par les membres de la Commission pour avoir une exemption. Il y a aussi toute cette mobilisation, en fait. C'est aussi grâce à la mobilisation des internautes que certains secteurs, comme le logiciel libre ou Wikimedia, ont obtenu des exemptions. Donc les députés, se plaignent un peu de recevoir massivement des coups de fil et des mails, mais malheureusement, ils l'ont un peu cherché, en ne définissant pas au tout début ce qu'ils entendaient par données et par plateforme, par site web. Et donc, il a fallu batailler pour restreindre un peu à ça. Et il ne faut pas tomber dans le piège, même encore maintenant, avec toutes les exemptions. Cette directive n'est pas juste une loi anti-GAFA. Elle vise bien plus large.
Bien sûr, la loi s'applique finalement aussi à tous. Hein. On ne fait pas des lois à nous-mêmes. Fred,
petite précision par rapport au timing, la précédente directive de droit d'auteur date de 2001. Donc, quand tu dis effectivement ça va s'appliquer, cette nouvelle directive, ça allait voter pendant 10 ou 20 ans, on le constate de façon très claire. Et le deuxième point, c'est que quand des citoyens et des citoyennes s'expriment et contactent leurs députés, qu'ils soient députés européens ou députés français, c'est la démocratie. Surtout quand ils s'expriment avec leur propre expérience. Et on en parlera tout à l'heure quand on parlera du projet de loi éducation en France. Voilà, c'était juste une petite incise.
Ensuite, un autre point qui est un peu gênant, c'est de croire que les sites web sont sur des îlots isolés, notamment les sites sous licence libre, comme Wikipédia, en fait, ne peuvent pas fonctionner tout seul. On réutilise du contenu qui sont publiés en premier sur d'autres plateformes, à but non commercial, voire commercial, notamment Flickr représente 10% de la médiathèque Wikimedia Commons, parce que notamment des institutions françaises, les ministères préfèrent publier là-dessus, des musées, l'école polytechnique, et puis ils publient quand même sous une licence compatible avec Wikipédia, avec Wikimedia Commons, donc le contenu après est remis sur nos serveurs et permet d'illustrer Wikipédia.
Donc si un site tiers comme Flickr était finalement censuré, ne pouvait plus fonctionner correctement, Wikipédia perdrait...
On sera indirectement impacté. Et ensuite, la mission de Wikipédia, parce que beaucoup de gens, nous, dans le débat ces dernières mois, notamment les lobbyistes pro-directive, pro-article 13, s'étonnent que le mouvement Wikimedia reste mobilisé. Il faut bien voir qu'on n'est pas une entreprise commerciale, on ne cherche pas à ce que le public consulte à tout prix Wikipédia, notamment grâce aux licences libres, le contenu aussi est amené à être diffusé ailleurs, sur d'autres plateformes, par d'autres moyens. C'est le principe de la connaissance. Idéalement, on aimerait que les gens consultent énormément Wikipédia, mais il y a aussi beaucoup de gens qui consultent des sites commerciaux à but tout à fait profitable. Et donc, ça rentre aussi dans notre mission, c'est d'aller jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à l'internaute. Et tout seul, on n'y arrive pas forcément. Et donc là aussi, la directive, en fait, va empêcher, par exemple, bah, à l'heure actuelle, déjà, on avait publié sur notre blog un chercheur qui avait tenté de diffuser sur une plateforme vidéo telle que YouTube des enregistrements de bac. Le filtre les avait refusés. Et à l'avenir, comme le filtrage va s'étendre, on peut prévoir que des textes de Victor Hugo ou les peintures de Léonard de Vinci vont aussi être supprimés de ces plateformes.
Oui, c'était très inquiétant, effectivement, ce que tu dis. Et alors, deux choses, moi, ça m'évoque une citation que j'ai trouvée. Alors, je vais prendre le risque de l'attribuer à Marc Ress. Il me semble bien que c'est lui qui avait pris cet exemple-là. D'une vision, finalement, les rédacteurs de ce texte verraient Internet ou voudraient qu'Internet soit comme les rayons de la FNAC dans les années 80, qui oublient de voir, justement, toute cette interdépendance, tous ces systèmes de partage, qu'on ne peut pas juste faire une exception Wikipédia. Ça n'a pas de sens, puisque, finalement, il y a toute cette interconnexion qui existe. Tout ce que tu dis aussi, c'est que du coup, alors il y a peut-être une exception formelle, mais qu'en réalité, Wikipédia ne peut pas être épargné par ce texte. On imagine bien, ne serait-ce que je pense que dire qu'une directive met en danger Wikipédia, et je pense qu'on voit tous l'intérêt collectif social que revêt Wikipédia maintenant. Alors, le simple fait de menacer ça devrait d'ailleurs disqualifier, à mon sens, un texte de là. Bon, là, je parle d'un point de vue libriste, mais Anne-Catherine, peut-être que tu voulais donner ton point de vue.
Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que, comme vous l'imaginez, bon, on a eu 5 trilogues déjà et on a eu peut-être 10 ou 12 réunions techniques de trilogues, juste le staff, pas au niveau politique. Et notamment, toute cette discussion, cette négociation pour exclure des plateformes, des sites tels que Wikipédia, ça a été assez long. Et d'ailleurs, techniquement, c'est pas dans l'article 13 même, mais dans l'article 2 qui est sur les définitions.
Tout à fait.
Et il y a un paragraphe sur la définition des plateformes, et l'article 13 s'y réfère indirectement. Et c'est très difficile de faire comprendre ce que veut dire commercial, non commercial, que l'adjectif non commercial n'est peut-être pas très pertinent sur Internet, parce que comment qualifier cela, puisque sur Wikipédia, il y a un appel au don, donc c'est pas forcément non commercial. Donc il faut mettre le curseur à d'autres endroits, et ça donne lieu à des discussions très très longues, et il a fallu vraiment batailler pas mal au niveau technique et politique. Et ce qui s'est passé en cet été, l'été 2018, donc toute cette campagne qui a permis aux députés quand même de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette directive, y compris tous les députés du Parlement qui ne travaillent pas sur le dossier directement. Donc on a réussi, le groupe des Verts et d'autres, mais on y est beaucoup pour quelque chose, à challenger, excusez-moi pour l'anglicisme, mais le mandat du Parlement, qui allait tout simplement adopter le texte comme une lettre à la poste suite au vote de la commission jury en juin, pour juste commencer le trilogue. Mais on a réussi à mettre les choses en suspens pour permettre aux députés de se rendre compte que ça n'allait pas et de donner l'opportunité de déposer certains amendements. Et en septembre, on a voté sur ces quelques amendements, et notamment, il y a eu ces amendements sur l'exception pour les PME. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour le Parlement aussi, parce qu'en septembre, c'est ce que le Parlement a dit. Il dit « Attendez, on va changer un peu l'article 13, il y a quand même quelques aspects qu'il faudrait prendre en compte. » Et là, on voit qu'au niveau du Conseil, c'est aussi ça qui fait achoper le processus.
Pour ceux qui ne suivent pas forcément le dossier, effectivement, je m'embrouille dans les dates, le 20 juin, il me semble bien, le texte avait été d'abord rejeté, puis, alors, plusieurs modifications, mais une des principales était cette exception pour les petites et moyennes entreprises qui a été rajoutée. Et c'est ça qui aurait fait la bascule et permis au texte d'être adopté finalement en septembre. Et pourtant, c'est remis en cause maintenant. Donc, on voit bien aussi les effets de boule de neige que ça peut provoquer par
la suite.
Oui, c'est
ça, exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'on insiste sur cette exception pour le Parlement, au niveau du contexte politique, c'est important de le garder.
Bah pour ceux qui le défendent, nous, après, on se sert. Alors, on regrette que ce ne soit pas, comme je disais, sur les notions de liberté, sur les valeurs qu'on défend. Mais effectivement, mais à nouveau, je pense que comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus se voir uniquement l'opposition France-Allemagne, voir uniquement ce point d'achoppage précis. C'est révélateur plutôt, à mon sens, de la pauvreté, on va dire, intrinsèque du texte, et même de son incompatibilité avec les valeurs fondamentales, puisqu'il est impossible de tout faire rentrer, de s'assurer à la fois de principe de la liberté d'expression, on ne peut pas garantir la liberté d'expression avec du filtrage automatisé, c'est fondamentalement incompatible.
Par exemple, il y a... Excuse-moi.
Non, je t'écoute.
Ok. Il y a dans l'article 13 un paragraphe qui dit que, le filtrage automatique est interdit. Mais quand vous avez dans les autres paragraphes précédents quelque chose qui dit le contraire, parce que tout ce qui est prescrit dans l'article 13, en fait, sous-entend un filtrage automatique, de fait. Et cette interdiction de filtrage automatique, de toute façon, ne s'appliquerait pas parce qu'elle provient de la directive e-commerce. Et quand on regarde la directive e-commerce, cette interdiction de filtrage automatique dépend du safe harbor, de l'exception pour non-responsabilité, qui est vraiment la pierre angulaire de la directive e-commerce. Mais cette exception ne s'applique pas. Il est dit dans l'article 13 de la directive droit d'auteur que cette exception de la directive e-commerce ne s'applique pas. Donc, de fait, par un jeu de domino juridique, cette interdiction de filtrage ne s'applique pas non plus. Et ça, c'est une interprétation qui a été confirmée par le service juridique du Parlement.
Oui, mais après, voilà, donc, c'est vrai que juridiquement...
Il peut y avoir des déclarations de principe, mais juridiquement, mécaniquement, elles ne peuvent pas s'appliquer en réalité.
Oui, puis je trouve que le texte est juridiquement très compliqué, il est difficile à lire, et pourtant, en fait, quand, en sortant juste du point de vue juridique et en rentrant finalement dans le domaine du bon sens, on voit bien que si on demande à des plateformes qui doivent gérer des millions de contenus tous les jours et d'être capables d'en détecter, d'empêcher certains contenus qui n'auraient pas reçu une certaine autorisation d'être mis en ligne, on imagine bien tout de suite que ça nécessite de fait la place de filtre automatisé, et ça se comprend assez simplement, et les risques ensuite sous-jacents se comprennent très bien. Alors il y a des outils qui existent, on en avait parlé, comme je vous disais, avec Pierre Bessac, qui est d'ailleurs... le billet il avait écrit un billet qui sera en ligne est très intéressant, il explique cela très bien, c'est que il est impossible de mettre en place des filtres satisfaisants, et sur des millions, je trouve que ça existe très bien à quel point ces filtres sont inadmissibles. Si sur des millions de contenus passés tous les jours, il suffit qu'il y ait finalement même 0,01% représenterait quand même des milliers de personnes, et il paraît inacceptable de censurer quotidiennement des milliers de personnes pour un prêt, voilà, sur des bases automatiques. Et bon, parlant voilà de ces milliers de personnes potentiellement censurées par cet outil, moi je pense qu'il est du coup peut-être important de mobiliser sur ces sujets, parce que alors si le texte paraît compliqué, finalement ce qu'il menace est très clair, c'est notre capacité à partager, c'est la liberté d'expression, c'est la capacité voilà à croiser des contenus, à créer du nouveau contenu, à interagir ensemble et à s'informer, à partager le savoir, tout ce qu'on défend finalement au quotidien, je pense à l'April comme chez Wikimedia en général. Alors du coup, ça nous ramène peut-être à ce que tu évoquais, donc sur les prochaines échéances qui vont venir assez rapidement, et peut-être voilà, je pense qu'on peut se revenir ça après une petite pause musicale qui nous permettra voilà de revenir donc sur la manière de se mobiliser et sur les prochaines séances à attendre.
Effectivement, nous allons faire une petite pause musicale. Le morceau que nous allons écouter, c'est Edge of Feminine par Killy Mays, et on se retrouve juste après.
मस्तिष्क में शक्ति है
कुछ भी
मस्तिष्क Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you going through? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you going through? You see this system has long been a joke. Patriarchy, they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yolk. Inside 360, we rep the second toke. Keeping on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust and now we must revoke. Will you blindly follow, smoothing up that coat? That's conscious on your side, do you feel her vote? And we don't want eat caves animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watchtower. Do you have the balls? Are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop up in the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that internal doubter. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you going through? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Na koi majnabani, kaam karvayenge. Apne kaam hai abhi se kuch ban jayenge. Na koi majnabani, kaam karvayenge. Apne kaam hai abhi se kuch ban jayenge. Choices, take over or watch the babies die. Polluted air, gun blast, see the way they cry. You get muted, lick a shot, so I can hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly seed, we suck it in deep. You've been wasting my time, assuming that we breathe. But I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small talk, he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S., who is the
real threat. I know you suspect, and while you reflect, we lethal inject with azole infects. I'm about to defect. Until then, I'll be writing rhymes and I'll be writing checks. Alright, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? And all my ladies in the west, and all my ladies in the east, we about to take over this beast. In the east, we about to take over this beast. Don't get me wrong, I love our men, but the days of the female service way back when are over, my friend. Human rights we must defend. Breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread the positive vibe. Wanna cleanse the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil he has crept inside. But when the women gather, the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal. That you won't worry about your looks, let's be real. See the beauty inside, you've been duped, break the seal. Holy prophecy, Nostradamus wrote it, see. It's our duty to return the mother to the tree. Water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? And all my ladies in the house, and all my ladies in the east, we about to take over this beast. And all my ladies in the west, and all my ladies in the east, we about to take over this beast.
Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Bon, bah, j'espère que vous avez dansé comme nous en écoutant donc Edge of Feminine by, par Killy Mays. Donc ce morceau est disponible en licence CC by SA, c'est-à-dire attribution partage à l'identique, et les références sont sur le site de l'April, april.org. Donc avant la pause, nous étions sur le sujet du projet de directive droit d'auteur. Nous allons poursuivre donc avec mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, avec Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et au téléphone Anne-Catherine Laurin, conseillère juridique pour le groupe des Verts européens au Parlement européen. Je repasse la parole à Étienne.
C'est vrai qu'on parlait justement de cette question de la mobilisation, parce que bah, là on va revenir dans une période où la mobilisation... sera peut-être possible. Alors on va revenir peut-être sur vos pronostics. Je vais faire un point, parce que c'est vrai qu'on vous parlait des trilogues, donc ces négociations entre les principales institutions de l'Union européenne qui discutent du texte de manière un peu technique, derrière des portes closes, on va dire. Alors nous, pendant cette période, on n'est pas resté les bras croisés. On a essayé donc d'agir, voilà, pour obtenir, comme je mentionnais rapidement, vous mentionnais plus tôt, une exception très satisfaisante pour les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Alors moi, on avait parlé, c'est GitHub qui avait fait beaucoup de bruit, parce que comme Pierre-Yves disait, il faut être en mesure de faire du bruit pour être entendu, et donc on a fait partie de ces secteurs, pour reprendre le terme souvent employé, qui ont réussi à nous faire entendre. Alors pour ceux qui avaient suivi, on en a arrivé à quelque chose d'après satisfaisant. Au départ, ça n'excluait que les plateformes de développement à but non lucratif. Dans un premier temps, ils ont fait sauter ce critère de lucrativité qui n'a aucun sens. Donc c'était toutes les plateformes de développement de logiciels libres étaient effectivement exclues sur le papier. Et nouvelle amélioration, à notre sens, l'ajout de la notion de partage, parce qu'il n'y a pas que les forges logicielles à proprement parler, comme GitHub, c'est pour développer pour faire du développement de logiciels. Il y a aussi les dépôts et aussi les archives de logiciels. Là, je pense à Software Heritage. Alors, on fera une émission, je pense, dans un futur proche, mais qui est un superbe projet d'archivage d'ensemble des codes. Fred,
Software Heritage, le 12 février.
Le 12 février, voilà. Le 12 février.
Alors, le 19, excuse-moi. Voilà. Le 19.
Vous en parlons en détail, c'est un magnifique projet d'ailleurs, et qui aurait pu être impacté, alors que je crois que l'UNESCO a reconnu l'utilité pour le bienfait de l'humanité, enfin, bon, dans d'autres termes peut-être, mais dans cette idée-là. Donc, le terme de partage a été rajouté, qui permet d'avoir une définition qui nous paraît suffisamment sûre juridiquement. Et à cette fin, nous avions notamment rencontré des membres du ministère de la Culture français, donc qui ne sont pas les moins, on va dire, stricts en ce qui concerne une application rigoureuse du droit d'auteur.
Extrémiste.
extrémistes, oui, je pense qu'on peut utiliser ce terme, effectivement, maximalistes, parfois longtemps aussi, et ils étaient... Ils comprenaient nos arguments, ils avaient l'air d'être sur cette longueur d'onde que d'obtenir voilà, sans le critère de créativité et de partage et de développement. Alors, donc, nous savons, voilà, nous arrivons sur la fin de ces négociations ou pas.
Mais ce que tu veux dire par là, en fait, c'est qu'au niveau donc, des gouvernements, et notamment du gouvernement français, il y a un soutien sur cette exception pleine et entière des plateformes logicielles.
Donc ça n'a pas c'est l'air important. De faire débat pour voilà, eux. C'est acté, en tout cas, c'est acté. Alors... C'est toute la difficulté de ces négociations. Tant que le texte final n'est pas connu, tout est potentiellement pourrait. Enfin, rien n'est acté encore, mais sur ce point, je pense qu'on peut être assez confiant sur un résultat possible. Maintenant, pour nous, ça, c'est juste une exception. Et clairement, le combat reste de faire tomber cette directive, de faire tomber surtout l'article 13. Alors, donc, et c'est là un peu. Cette situation est un peu. Était inattendue. Donc. Pour reprendre, et Anne-Adrine ou Pierre-Yves, vous pourrez me corriger. Donc finalement, les négociations devaient se terminer le 21 juin, comme on disait. Le 18 janvier, un des participants finalement, donc le Conseil de l'Union européenne, un des participants n'a pas obtenu le mandat pour pouvoir continuer ces négociations. Donc maintenant, on ne sait pas si les négociations vont continuer, si elles vont réussir à aboutir. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, de savoir qu'est-ce qui se passera ensuite. Donc sur ce point, est-ce que vous pensez... Alors, peut-être Anne-Catherine d'abord, ensuite peut-être Pierre-Yves. Est-ce que vous pensez que les négociations vont aboutir ?
Comme je disais tout à l'heure, là, les élections européennes arrivent à grands pas au mois de mai, ce qui veut dire techniquement qu'aucun texte ne peut être adopté par le Parlement après début avril, vraiment au dernier moment. Mais la plupart des choses seront votées, actées par le Parlement fin mars. Ce qui rend les choses vraiment difficiles maintenant, puisqu'on n'aura pas eu de trilogue en janvier. Donc effectivement, une possibilité d'absence d'accord pendant cette législature du Parlement est tout à fait possible, oui.
Parce que, en plus, de mémoire, à la fin, s'ils arrivent à négocier, il faut au moins un délai d'environ 2 mois pour que, finalement, le texte puisse être voté ensuite. Donc, ça réduit d'autant plus.
Oui, donc ça veut dire qu'en fait, le mieux, ça aurait été d'avoir le dernier trilogue le 21 janvier, une autre réunion technique ou deux pour finaliser la rédaction. Et ensuite, ça passe vers les services des jurys linguistes qui doivent tout vérifier... les détails des textes, déjà rien qu'en anglais, puisqu'il faut que tout soit cohérent entre les articles, entre les considérants aux articles, donc quand même une vingtaine d'articles dans ces directives, c'est un dossier prioritaire, donc ça prend du temps. Et ensuite, il faut que ce soit traduit dans toutes les langues européennes, en principe, sauf si c'est un dossier vraiment hautement prioritaire et que les circonstances exceptionnelles de fin de mandat font que... Voilà, on peut peut-être sauter quelques traductions, mais normalement, tout doit être traduit et ensuite soumis au vote. Donc, ce serait en avril, dernière possibilité. D'accord. Après, il n'y a plus de vote pendant la session, sous ce Parlement.
Oui, on voit bien que le calendrier est serré. Si en plus, on rajoute la perspective du Brexit, qui va prendre beaucoup d'énergie. Alors, tu disais que le mieux était que les négociations aboutissent le 21 janvier. Nous, on est assez contents de dire que justement, elles soient repoussées et que tout ça commence à s'écrouler. Donc oui, on voit bien que le timing est très serré. Pierre-Yves, peut-être ton avis sur ce point ?
Je suis loin d'être un expert de Strasbourg et de Bruxelles, mais on voit ce qui compte et ce qui énerve vraiment les partisans de la directive, et notamment de l'article 13, c'est la mobilisation des citoyens, des internautes qui continuent mois après mois, et en fait depuis un an, voire les 2 années, voire... d'élaboration du texte. On peut le percevoir avec la pétition qui a dépassé les 4,5 millions de signataires, avec sans arrêt de nouvelles plateformes. Et dernière date, c'est les youtubeurs qui ont fait de la démobilisation. Donc c'est vraiment ça qui est le point fort. Ça a étonné tout le monde, même chez nous, les Wikimédiens. C'est difficile de le maintenir sur des sujets très, très compliqués, qui changent sans arrêt. Comme il y a 3 versions du texte qui sont en cours de négociation et qui changent d'un mot, d'une virgule, qui qui modifie tout le texte. Donc c'est très compliqué. Il faut maintenir un peu la pression, parce qu'en fait, l'idée du filtrage, si elle ne passe pas dans cette directive, elle peut passer aussi dans d'autres textes. Je ne sais pas si vous avez évoqué la réforme en cours pour lutter contre le contenu terroriste. Il y a aussi la même idée. Et donc, tout un tas d'acteurs, en fait, et de politiciens veulent étendre cette idée de filtrage à tout un tas d'autres secteurs que le droit d'auteur.
Oui, tout à fait. Donc, avoir un rapport de force important, alors, il est essentiel sur ce texte, mais il est essentiel globalement pour lutter contre ce genre de vision très sécuritaire, on va dire, de nos échanges. Fred ?
Sur le sujet évoqué par Pierre-Yves Baudouin, on peut renvoyer sur le site de la Quadrature du Net, qui a publié, je crois, hier ou aujourd'hui, un nouvel article concernant cet autre projet au niveau européen.
Alors, tu parlais de mobilisation. Alors, c'est vrai que là, tout de suite, c'est difficile de se mobiliser parce qu'il est encore justement un peu dans cette tambouille difficilement compréhensible. Mais si ces négociations finissent par aboutir, s'ils arrivent à se mettre d'accord et que le texte finit par être envoyé au vote des parlementaires, c'est là où justement ce dont tu parlais, l'importance de ces mobilisations va se faire ressentir à nouveau. Il va falloir, et ça avait porté ses fruits hein, en juillet, je veux dire, c'est quelque chose qui est atteignable, d'appeler les parlementaires, de leur faire comprendre que c'est une inquiétude qui ne vient pas seulement de Google ou de Facebook, qui est une vraie inquiétude populaire, que les gens se mobilisent sur ces sujets, sont sincèrement inquiets. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et effectivement, alors, il y a eu la pétition, le site Save Your Internet, hein, on va vous mettre le lien aussi également, qui était une belle plateforme et qui avait facilité ces prises de contact et qui a été d'ailleurs repris en main par EDRI, qui est une association européenne de défense digital rights, donc des droits numériques pour traduire littéralement, qui est très active aussi sur ce sujet. D'ailleurs, je mentionne qu'ils ont publié une lettre ouverte dont l'a pris les Wikimedia France, son signataire, pour à nouveau appeler au rejet de ces articles 13, rappeler l'importance des mobilisations, l'importance des critiques qui ont été formulées. Et peut-être toi, Anne-Catherine, qui travaille donc au Parlement européen, comment ils en sont où les parlementaires? Comment ils ressentent tout ce texte? Est-ce que tu as un ressenti? Quelle lecture fais-tu d'un point de vue Parlement européen de la situation?
Je peux dire que le rapporteur, M. Voss, est extrêmement nerveux et déçu qu'il n'y ait pas eu de sixième trilogue. Il espérait même que tout soit bouclé avant Noël. Il y croyait vraiment. Donc, il devient de plus en plus nerveux. Je suis incertaine. Je ne sais pas s'il se présente pour les prochaines élections. Mais en tout cas, si les négociations continuent après les élections, avec un nouveau Parlement, le texte restera entre les mains de ce groupe politique, PPE, plutôt de libéral, de droite.
L'équivalent des Républicains au niveau du Parlement européen, je pense qu'on peut dire.
Voilà. Donc s'il se représente, ce serait toujours lui, et si c'est pas lui, ce sera quelqu'un du même groupe. Nous, on est plutôt content que, comme je disais tout à l'heure, on vous rejoint là-dessus, on est content que les négociations soient ralenties, parce que ça prouve la difficulté de la chose, surtout que les négociations butent sur cet article 13, qui sont vraiment le point névralgique de toutes les difficultés engendrées par la directive, qui veut, soi-disant, tout régler et faire payer Google de tous les maux qu'il faut endurer à l'industrie de la culture, en gros. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la plupart des députés deviennent très nerveux. Oui, je parle aussi d'autres groupes politiques, comme les libéraux, ADLE, c'est M. Cavada qui est leur rapporteur fictif. Oui, la plupart des gens sont inquiets.
Alors, on parlait d'extrémisme du droit d'auteur, je pense que tu viens d'en citer un en particulier. Alors, moi, j'ai vu une chose que Julia Reda disait sur Twitter, de mémoire. Alors, Julia Reda, qui est une députée du monde du groupe des Verts et qui a fait beaucoup pour aussi apporter de la transparence pendant le trilogue, elle a participé à communiquer des textes. Et elle me semblait qu'elle disait qu'elle voyait de plus en plus de collègues regretter leur vote de septembre en faveur de l'article 13. Est-ce que tu as eu des échos similaires?
Oui. Oui, tout à fait.
Oui, donc c'est intéressant.
Ben, oui, parce qu'il voit bien justement que ce qui est intéressant, c'est de voir comme un coup de théâtre, si on veut. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu le temps de vraiment finir ce qu'on avait. On avait commencé à en parler de cette lettre du secteur audiovisuel qui dénonçait maintenant l'article 13, alors qu'au début, c'était les premiers défenseurs de cet article. Ils disaient que c'était ça qui allait permettre de régler qu'on appelle le value gap, ce fossé de valeur entre les grandes plateformes américaines, Google, qui dégagent trop d'argent du contenu culturel, notamment européen, qui étaient les grands défenseurs de cette idée. Et là, qui se rendent compte qu'à force de discussions, de tractations sur toutes les conditions de mise en œuvre de cet article, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si terrible que ça, c'est trop compliqué, c'est une usine à gaz. Il y a déjà des systèmes mis en place par le secteur audiovisuel pour reconnaître automatiquement les contenus en ligne, donc ils sont assez contents de ce qui est déjà en place, ils voudraient pas que tout soit chamboulé. Et ils se rendent compte, très justement, ça on l'a toujours dit, que seules les grosses plateformes comme Google, qui ont déjà des systèmes ID Content de reconnaissance automatique de contenu, peuvent se permettre d'appliquer cet article 13 qui oblige à mettre en œuvre des conditions drastiques que seul Google peut mettre en œuvre. Donc là, les acteurs du secteur audiovisuel avaient envoyé cette lettre en décembre, dont la Motion Pictures of America, qui par ailleurs ne représente pas des intérêts vraiment européens, c'est intéressant de le voir, que finalement, ils préféraient ne pas avoir d'article 13.
Oui,
donc les députés qui ont finalement voté pour cet article en septembre, malgré toute la discussion qu'il y a eu, les campagnes médiatiques, les appels téléphoniques de citoyens qu'ils ont reçus, ils regrettent finalement d'avoir voté pour cet article 13, effectivement, beaucoup d'entre eux.
C'est dommage que quand les citoyens appellent, on part de lobby de Google, mais je sais que c'est bien pas l'ensemble des parlementaires.
C'est très, 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 très énervant d'entendre ça. Oui, c'est raccourci de dire que tous ceux qui sont contre la création sont pro-Google.
Ça finit par rattraper. Mais ce que je trouve qu'un terme qui résume bien ce que tu dis, c'est une situation un peu d'usine à gaz. Et c'est vrai que du coup, quand on essaye de revenir un peu dans le fond et d'expliquer tout ça, ça peut être un peu confus, mais c'est, le texte l'est par ailleurs. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a eu un sacré coup de pouce là en notre faveur, que bien sûr le combat n'est pas fini, mais que si jamais un vote doit avoir lieu, on est vraiment dans des très bonnes dispositions pour se mobiliser. Et si on se mobilise, on a vraiment toutes les chances d'être entendu. On a déjà été entendu une fois, et ça converge là. Les situations convergent pour qu'on. Il semble bien que nos interlocuteurs, que les parlementaires, quand il faudra les appeler, entendent bien que l'inquiétude est réelle et qu'elle vient de nombreuses voix. Et voilà, je pense qu'on a toutes les chances de faire renverser cette directive. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je pense qu'on va arriver
à l'alignement d'étoiles peut vraiment être parfait si aussi on prend en compte les élections européennes qui arrivent.
Bien sûr.
Il y a quand même un enjeu d'élection qui fait que l'intervention et la mobilisation citoyenne est regardée d'un œil plus attentif.
Le temps presse pour eux, nous on a tout notre temps, donc voilà, le temps presse pour eux, et le plus temps presse pour eux, le plus c'est difficile, je pense, pour eux d'aboutir. Je pense qu'on arrive au bout du sujet, mais si vous avez peut-être un mot de fin, une dernière réflexion, Pierre-Yves.
Il ne faut pas perdre espoir, c'est un marathon qui a débuté il y a 2 ans et demi, et là il ne reste plus que quelques semaines. Continuez à s'informer, continuez à présenter tous ceux qui sont opposés, ils sont de plus en plus nombreux, et on voit qu'il y a de nouveaux secteurs comme l'audiovisuel américain, le sport, il y a aussi le syndicat du foot anglais, hein, qui n'est pas un petit acteur du numérique, il y a un petit lobby. Donc il faut mettre en avant ça, tout ça. Il y a 2 ans, il y avait déjà les chercheurs, les pionniers du web, tout ça. Il y a vraiment tout un tas de secteurs différents, les associations de consommateurs qui sont opposés à cet article. Donc continuez à diffuser leur message et on devrait gagner.
Anne-Catherine ?
Oui, on a l'habitude de critiquer le Conseil puisque ils sont très très protecteur des intérêts nationaux, ce qui ne fait pas forcément avancer les choses du bon côté. Mais là, au moment présent, on voit le Conseil qui nous offre une fenêtre d'opportunité pour réveiller un petit peu cette mobilisation autour de l'article 13.
C'est vrai qu'on ne pensait pas que ça viendrait d'eux, mais voilà, comme quoi.
Donc, voilà.
Merci beaucoup à Pierre-Yves Baudouin pour Wikimedia France et Anne-Catherine, conseillère politique pour le groupe des Verts, la commission jury du Parlement européen. Je pense qu'on sera sûrement amené à reparler de ce sujet passionnant.
Oui, merci.
Merci.
Alors merci Anne-Catherine Laurent, donc conseillère au Parlement européen et qui se souvient comme bien d'autres de la victoire contre ACTA il y a quelques années, donc le traité anti-contrefaçon et donc et plus loin encore la directive brevet logiciel qui avait été rejetée. Donc quand on se mobilise, quand les citoyens et citoyennes se mobilisent, on peut agir et renverser des textes si on n'arrive pas à les corriger, comme c'est le cas actuellement. Donc on espère que ce projet de directive subira le même sort. Donc je remercie aussi Pierre-Yves Baudouin, donc président de Wikimedia France,